Bonjour, au micro Idrissa Seloudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, pressé par son parti de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre, le président Alassane Ouattara a différé sa décision hier, invoquant le temps du deuil après la mort subite de son dauphin Amadou Gon Coulibaly. Nous y reviendrons avec Yacouba Ouédraogo. Au Mali, le plan de sortie de crise a essuyé hier un triple revers. L'opposition a réclamé à nouveau le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Elle a rejeté la main tendue par le Premier ministre et des députés ont refusé d'obtempérer à une demande de démission des États d'Afrique de l'Ouest. En outre, l'opposition va lancer dès le début de la semaine prochaine une deuxième phase de désobéissance civile, ont indiqué ses dirigeants lors d'une conférence de presse. Notre correspondant Kassim Traoré fera le point en seconde partie de cette édition. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi a ratifié ce mercredi une loi interdisant les militaires d'active et à la retraite d'être candidats à la présidence ou au Parlement sans l'accord de l'armée. Ce changement législatif intervient alors que les Égyptiens ont largement voté l'année dernière lors d'un référendum en faveur d'amendements constitutionnels qui permettront potentiellement au président Sisi, lui-même un ancien maréchal élu en 2014 puis réélu en 2018, de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Au Maroc, le journaliste et militant des droits de l'homme, Omar Radi, a été placé en détention hier pour viol et réception de fonds étrangers dans le but de porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État, a annoncé la justice marocaine. Selon Amnesty International, je cite, « ce journaliste courageux est harcelé par les autorités du fait de son indépendance ». Omar Radi a collaboré avec plusieurs médias marocains et internationaux et a enquêté sur la corruption, l'économie de rente, la prédation foncière ou les collusions entre pouvoirs et milieux économiques. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a annoncé hier soir une généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains au cours des 5 prochaines années, et la création d'un fonds de 11 milliards d'euros pour relancer l'économie après la pandémie de coronavirus. Il y a officiellement au Maroc 22 213 cas, dont 334 décès, avec une hausse des contaminations depuis l'assouplissement des mesures sévères de confinement. En Gambie, le président Adama Barrow s'est immédiatement mis en isolement pour 2 semaines ce mercredi après un test positif au coronavirus de sa vice-présidente Aissatou Touré. La présidence gambienne a encore appelé les citoyens à porter des masques et à pratiquer la distanciation sociale pour endiguer le virus dans le pays qui a déclaré 326 cas, dont 8 décès. Les 2 pays les plus touchés par la pandémie ont atteint hier des caps macabres, les États-Unis dépassant les 150 000 morts et le Brésil franchissant pour sa part la barre des 90 000 décès. Sur 24 heures, les États-Unis ont déploré ce mercredi 1267 décès supplémentaires, soit un peu plus que la veille, lorsque le bilan quotidien était monté à près de 1600 morts, un niveau qui n'avait plus été enregistré depuis 2 mois et demi. Également, on a enregistré plus de 68 000 nouveaux cas de contamination, portant le total à plus de 4,41 millions, selon l'université Johns Hopkins. La situation dans le sud et l'ouest, la Floride en particulier, reste préoccupante. La Chine, pour sa part, a recensé 105 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, un record quotidien depuis 3 mois et demi, ont indiqué ce jeudi les autorités sanitaires locales. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. La suite de nos informations, en Côte d'Ivoire, le conseil politique du parti au pouvoir, le RHDP, a tenu hier à Abidjan une réunion sur la désignation de son candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Sollicité par les différentes structures de son parti pour se représenter, le président Alassane Ouattara. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le président Alassane Ouattara, qui a présidé la réunion du conseil politique du RHDP, a dit entendre les messages des différentes structures du parti.
Je prends acte donc des résolutions du conseil politique et de votre demande. Je vous demande de continuer d'avoir une pensée pour Amadou Gon Coulibaly et de me laisser le temps du recueillement et de la récupération avant de vous donner une réponse très prochainement.
L'opposition conteste au président élu en 2010 puis réélu en 2015 le droit d'effectuer un troisième mandat. M. Ouattara estime que la nouvelle constitution de 2016 a remis les compteurs à zéro. Lundi, l'ancien président Henri Konan Bédié, 86 ans, a été désigné porte-étendard du PDCI à la présidentielle du 31 octobre. Marcel Amontano, ancien ministre des Affaires étrangères, s'est lui aussi jeté dans la course. Et l'ancien président Laurent Gbagbo, après 10 ans en prison, puis acquitté par la CPI, a déposé à l'ambassade ivoirienne à Bruxelles une demande de passeport ordinaire pour revenir dans son pays.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a rencontré la sœur jumelle de son prédécesseur en pleine crise entre les deux familles politiques en coalition. Le point avec Eddie Isango.
La rencontre avait entre autres pour but d'apaiser la tension entre les camps de l'actuel président Félix Tshisekedi et celui de son prédécesseur Joseph Kabila, confirme le président de la CENI, Corneille Nangaa, qui était de la partie. Il reconnaît qu'il y a bien crise et qu'il fallait que les gens se parlent. Le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, issu du FCC de Joseph Kabila, majoritaire au Parlement, a la semaine dernière dénoncé des ordonnances présidentielles d'innomination dans l'armée et dans d'autres institutions sans son contre-sein. Sa famille politique a marché la semaine dernière pour dénoncer ce qu'elle qualifie des dérives dictatoriales du chef de l'État. Avant cela, l'UDPS, parti du président Tshisekedi, était dans la rue pour s'opposer aux tentatives du FCC de contrôler la justice et contre la tentative d'imposer Ronsard Malonda pour diriger la CENI.
L'administration Trump a annoncé mercredi l'envoi d'agents fédéraux dans trois nouvelles villes américaines dirigées par des démocrates pour les aider à endiguer une recrudescence de la criminalité. Dans le même temps, la gouverneure de l'Oregon annonce le retrait d'agents fédéraux de Portland.
Après des discussions avec le vice-président et des responsables de l'administration, le gouvernement fédéral a accepté ma demande et va commencer à retirer ses agents, a écrit dans un communiqué Kate Brown, la chef de l'exécutif de l'État de l'Oregon, où des manifestations antiracistes, parfois violentes, se tiennent depuis des semaines à Portland. Le ministre de la Sécurité intérieure par intérim Chad Wolf a de son côté souligné dans un communiqué que ses services continueraient à maintenir un personnel de maintien de l'ordre jusqu'à ce qu'il soit sûr que le tribunal et autres sites fédéraux ne seront plus attaqués. Au même moment, le ministre de la Justice annonce l'envoi d'agents fédéraux dans trois autres villes dirigées par des démocrates, Détroit, Cleveland et Milwaukee. Ces trois villes connaissent une hausse troublante des crimes violents, parfois des homicides, a écrit Bill Barr, très critiqué par l'opposition pour avoir dépêché des policiers fédéraux à Portland et d'autres villes dirigées par des démocrates.
La Minute Éco, John Linden.
En RDC, la GECAMINE, la Générale des Carrières et des Mines, pourra produire 400 000 tonnes de cuivre par an. Le gouvernement annonce avoir mis en place une nouvelle équipe et une feuille de route. Selon le Financial Afrique, la GECAMINE a des difficultés à produire plus de 10 000 tonnes de cuivre. Elle réalise un bénéfice net de 12 millions de dollars, mais présente un passif de plus de 1200 millions de dollars et la société est en cessation de paiement depuis 1991. Le gouvernement namibien a sollicité un prêt d'urgence de 274 millions de dollars auprès du FMI pour aider à lutter contre la pandémie de COVID-19. Les cas confirmés dans le pays s'élèvent à un peu plus de 1900. Le déficit budgétaire de la Namibie devrait s'élargir à 68,7% du produit intérieur brut contre une estimation de 54,8% l'année précédente. La Standard Bank en Afrique du Sud a déclaré mercredi que son bénéfice semestriel pourrait chuter jusqu'à 50%. La plus grande banque d'Afrique en termes d'actifs avait averti que les bénéfices seraient probablement inférieurs d'au moins 20% à cause d'une flambée des créances douteuses avec de nouvelles entreprises et des frais de transaction. Selon la Banque centrale, l'économie sud-africaine, déjà en récession, devrait reculer de plus de 7% cette année.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous, LeBron James, pour qui le temps presse avec les Lakers. Gianni Antetokounmpo, jamais aussi fort que cette saison avec Milwaukee. Kawhi Leonard et ses Clippers taillés pour le titre. Ainsi se posent les favoris du championnat NBA qui reprend aujourd'hui 30 juillet à Orlando en Floride. Prétendant annoncer au sacre avant la saison, ces trois équipes ont confirmé leur statut au cours des 5 premiers mois de compétition. Dominant les conférences Ouest et Est, les prochaines semaines diront si les 4 mois et demi d'interruption dus au coronavirus ont eu un impact au point de rebattre les cartes pour les nombreux outsiders qui sont Toronto, champion en titre, Denver, Utah, Houston, Miami ou encore Oklahoma City. En football, Oroya AC ne veut pas jouer au Maroc. Le club guinéen a écrit à la CAF pour que le format de la Coupe de la Confédération soit revu. Nous vous suggérons pour une meilleure gestion, conformément aux règles de neutralité, de procéder à l'application du format aller-retour ou de choisir un terrain neutre aux 4 équipes en compétition. Lit-on dans un courrier adressé à l'instance, le club guinéen conteste de jouer le Final Four du tournoi au Maroc qui a toujours 2 clubs en compétition, Hassania Agadir et la Renaissance sportive de Berkane. Pyramide FC d'Égypte, l'autre club qualifié pour les demi-finales, avait déjà soulevé cette inquiétude il y a quelques semaines. La CAF a décidé de revenir à un format classique pour les demi-finales de la Ligue des Champions. En Algérie, le CR Belouizdad, leader avant la suspension de la Ligue 1, est proclamé vainqueur du championnat. La Fédération de football a décidé de mettre un terme définitif au championnat et de maintenir le classement d'avant suspension, ce qui permet au Belouizdad de trôner sur le football algérien, soit leur 7e titre de Ligue 1. Le CR Belouizdad succède ainsi au palmarès à l'USM Alger grâce à ses 40 points en 21 matchs joués. En Espagne, un joueur du Séville FC a été testé positif au Covid-19, alimentant l'inquiétude autour de la reprise des Coupes d'Europe de football. La semaine prochaine, le club espagnol doit affronter l'AS Rome le 6 août en 8e de finale de la Ligue Europa. Mardi, c'est l'attaquant du Real Madrid, Mariano Diaz, qui a été testé positif alors que son équipe doit affronter Manchester City en 8e de finale retour de la Ligue des Champions le 7 août en Angleterre. En France, l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi, prétendant au rachat de l'Olympique de Marseille, a annoncé avoir transmis une dernière offre ferme, valable selon lui pour les 10 prochains jours ouvrables. Le propriétaire américain Frank McCourt a formellement rejeté toute négociation. L'OM a indiqué la semaine dernière que le club n'est pas à vendre.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sylvia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le plan de sortie de la CEDEAO est confronté à des oppositions. Lors d'une conférence de presse, le M5-RFP a réclamé à nouveau le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et a rejeté la main tendue par le Premier ministre. Des députés qui sont qualifiés de mal élus disent qu'ils ne démissionneront pas, comme l'avaient demandé des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Les députés concernés par la décision de la CEDEAO étaient devant la presse. Ils disent avoir été élus démocratiquement par leur population au sein de leur circonscription, validés par la Cour constitutionnelle du Mali. Voyons Koulibaly, député IRD de Kali.
Nous nous sommes concertés et nous avons convenu que nous, on ne démissionnera pas. C'est parce que cette décision ne répond pas à la loi électorale, ne répond pas au code électoral, ne répond pas à notre constitution. Notre constitution est violée par cette décision.
Les députés, une fois élus, n'appartiennent plus à leur formation politique et la majorité ne peut pas les faire démissionner. Maître Chekoumar Konare, avocat.
Les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours. Ratifie que vous soyez content ou pas, que la Cour se soit trompée ou pas, une fois son arrêt rendu, il est insusceptible de recours.
Les M5-RFP étant aussi en conférence de presse. Il s'est dit déçu par les chefs d'État de la CEDEAO qui ont réduit la crise malienne à une question électorale. Professeur Ibrahima Ikassa Maïga, l'un des porte-parole du M5-RFP.
Les décisions du sommet des chefs d'État de la CEDEAO reposent sur des approximations très improbables telles que la démission hypothétique des députés dont l'élection est contestée. Le M5-RFP réaffirme sa détermination à mener son combat pour sauver le Mali et exige plus que jamais la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime et sa demande de libération de l'honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition.
Présent à la conférence de presse du M5-RFP, l'imam Mahmoud Diko dit que lors de sa rencontre avec le Premier ministre, il lui a demandé de démissionner pour faciliter la mise en place du gouvernement d'union nationale avant de donner son avis sur le sommet de la CEDEAO.
Je le réitère à cette occasion que le Mali n'est pas un pays soumis, ce n'est pas aussi un pays résigné, pour qu'on ne cherche pas à nous distraire. Cherchez à nous distraire pour ne pas aller à l'essentiel. Ceux qui ont ça comme projet, qu'ils se détrompent. Avec tout le respect qu'on leur doit, c'est les chefs d'État. C'est leur droit de ne pas comprendre. Ce qu'eux-mêmes ont tenté, ça n'a pas réussi. Maintenant, on profite des occasions pour livrer du coup au verdict international pour qu'on l'élimine. Oh, ça ne peut pas m'ébranler, moi.
72 heures après la fête de Tabaski, la générale du M5-RFP va lancer la deuxième phase de la désobéissance civile et n'arrêteront plus jusqu'à l'obtention de façon démocratique la démission du président Ibeka. Chekoumar Sissoko, membre du M5-RFP.
Ibeka doit démissionner, son régime doit démissionner. Les décisions de la CEDEAO nous confortent dans cette idée et nous pouvons gagner, nous allons gagner, mais il nous faut nous mobiliser, il nous faut être ensemble. Et l'expression politique que nous sommes, nous, M5-RFP, considérer que cette cohésion que nous avons est le signe donc de ce que vous devez faire, vous mobiliser, être ensemble, toujours ensemble, jusqu'à la victoire finale.
Pour ce qui est de la démission des députés, au niveau du secrétariat général de l'Assemblée nationale, aucun député n'avait déposé sa lettre de démission. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Cameroun, des militaires et des séparatistes armés accusés d'exactions sur les populations civiles dans les deux régions anglophones. Ces exactions ont fait au moins 8 morts civiles, d'après un rapport du Centre des droits de l'homme pour la démocratie en Afrique. Précision de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Tap.
Selon le rapport, les exactions des militaires sur les civils ont été commises les 28 juin et 19 juillet derniers dans les villages Ekona au sud-ouest et Piyin au nord-ouest du Cameroun. Des témoins cités dans le rapport affirment que deux civils ont été abattus en brousse à Ekona par des éléments du bataillon d'intervention rapide, une force spéciale de l'armée déployée dans la zone. Toujours selon des témoins, dans le village Piyin au nord-ouest, six civils ont été tués lors d'une opération militaire contre les séparatistes armés dans ce village. Kevin Akemkwen est responsable des droits de l'homme au Centre des droits de l'homme pour la démocratie en Afrique.
La situation n'a pas évolué depuis la tenue du grand dialogue national parce que nous avons encore des arrestations arbitraires, des exécutions extrajudiciaires. Les gens continuent à être victimes de violences dans plusieurs villages. Chaque jour, il y a quelque chose qui implique des séparatistes tout comme les militaires.
Parmi les victimes enregistrées le 18 juillet, on cite deux jeunes qui roulaient en moto entre les localités de Piyin et Santa, non loin de Bamenda, mais aussi trois femmes et un nouveau-né ayant succombé à une grenade jetée contre eux par un militaire à un poste de contrôle. Le rapport mentionne également que des groupes séparatistes armés commettent encore des atrocités sur des populations civiles. Ils ont kidnappé au moins 60 personnes, dont des enfants âgés de 14 à 16 ans, dans le département du Lébialème, au sud-ouest. Et le 20 juillet dernier, les séparatistes ont enlevé un enseignant qui se rendait à Bamenda pour superviser les examens officiels. Le Centre des droits humains pour la démocratie en Afrique lance un ultime appel pour que justice soit rendue. Une fois encore, Kevin Akemkwen.
Nous avons recommandé au gouvernement de mener une enquête indépendante et nous sommes prêts à y prendre part s'il le veut.
L'armée camerounaise n'a pas encore réagi aux accusations contenues dans ce nouveau rapport, mais le 5 juillet dernier, sur un plateau de télévision, le porte-parole du ministère de la Défense avait qualifié le promoteur du Centre des droits de l'homme pour la démocratie en Afrique, l'avocat Arbobala, citation, de personnes pas crédibles. Fin de citation. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous, cette semaine dans Washington Forum, en Afrique, comment relancer l'économie durement touchée par la pandémie de Covid-19. Les dirigeants de l'Union européenne ont récemment conclu un accord sur un plan de relance après de longues et difficiles négociations. Quelques 750 milliards d'euros seront mobilisés pour aider l'Europe à redynamiser son économie post-Covid. Mais en Afrique, on note une absence de réponse coordonnée. Qu'est-ce qui explique ce manque de réponse à l'échelle régionale ou continentale? L'annulation de la dette est-elle la solution? Rendez-vous jeudi 30 juillet à 19h universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
En Ouganda, les défenseurs de la liberté d'expression demandent la libération de plusieurs comédiens arrêtés la semaine dernière et accusés de faire la promotion du sectarisme. Des membres du groupe connu sous le nom de Bizonto ont été arrêtés après avoir joué un sketch critiquant les dirigeants ougandais. Reportage à Kampala de Halima Atoumani, repris ici par Lionel Gahima.
Les artistes sur les réseaux sociaux utilisent le hashtag « Libérez mon talent » pour appeler le gouvernement ougandais à libérer quatre comédiens du groupe appelé Bizonto. Ils sont toujours en garde à vue depuis leur arrestation vendredi. Ils n'ont pas encore été inculpés, mais la police dit qu'elle mène une enquête sur un cas de sectarisme. Dans leur sketch, des comédiens se moquent du président Yoweri Museveni et d'autres dirigeants.
Dites aux enfants que Yoweri Kaguta Museveni est leur président et ils devraient prier pour lui. Il est arrivé au pouvoir en 1986. Il a dirigé le pays pendant 35 ans et il règne toujours. Alors, il devrait prier pour lui, car il est le chef. Dites aux enfants que le général Eli Tumwine est le chef de la sécurité.
Nicolas Opio, directeur de chapitre 4, une ONG de défense de droits humains, affirme que la liberté d'expression existe pour protéger les discours qui mettent les gens mal à l'aise. Selon lui, les Ougandais devraient ridiculiser leurs dirigeants et, ce faisant, discuter des graves problèmes de gouvernance qui affectent le pays.
Les expressions artistiques, les pamphlets contre les dirigeants sont un moyen pour exprimer leur point de vue.
Et je pense que c'est un discours protégé. Au lieu de les arrêter, nous devons nous poser la question de savoir s'ils soulèvent un problème sérieux à travers leur sketch. Et nous devons avoir une discussion honnête sur l'équité, sur le partage du gâteau national.
Le groupe de comédiens a été arrêté dans une station de radio locale. Ofwono Opondo, un porte-parole du gouvernement, accuse les médias de prendre position alors que le pays entre dans un cycle électoral.
Le gouvernement ne va pas rester les bras croisés et regarder les gens tenter de briser l'unité et l'harmonie de la communauté que nous nous sommes battus si dur pour construire au cours des 34 dernières années.
Au début de l'année, le gouvernement a mis en place des nouvelles dispositions pour vérifier les nouvelles chansons, vidéos et scripts de films avant leur sortie. Ces dispositions exigent également que les musiciens, producteurs, promoteurs, cinéastes ou tous les autres artistes s'inscrivent auprès du gouvernement et obtiennent une licence qui peut être révoquée pour une série de violations. Alors, face à cette forme de censure, les artistes se tournent vers les réseaux sociaux pour inciter les gens à s'exprimer. Le chanteur Robert Kyagulani, connu sous le nom de Bobby Wine, est lui-même candidat à la présidence.
Je rappelle à tous que nous devons nous lever maintenant, affirmer nos voix et défendre ce qui nous appartient à juste titre. Parce que la liberté d'expression est un droit. Et rappelez-vous qu'aucune création, aucun artiste n'est en sécurité. Nous sommes tous attaqués.
La police affirme qu'elle a en sa possession des dizaines de vidéos qui montrent que les comédiens incarcérés faisait la promotion du sectarisme.
VOA Afrique en direct de Washington.
Melania Trump, la première dame des États-Unis, était mannequin avant d'épouser Donald Trump il y a 15 ans. Elle est également une immigrante slovène et une opposante à la cyber-intimidation aux côtés d'un président qui a été critiqué sur la question de l'immigration ainsi que sur son utilisation de Twitter. Caroline Pressouti de la VOA nous propose ce portrait de Melania Trump, repris ici par Jacques Aristide.
Stand up, Melania. Lève-toi, Melania.
Melania Trump a grandi en Slovénie, une ancienne république yougoslave de 2 millions d'habitants où vivent toujours ses amis d'enfance, comme Mirjana Zelenčić.
Elle était très positive. Elle aimait lire, elle aimait aussi la couture. Elle transformait des vêtements usés en nouveaux.
Sa passion pour la mode l'a conduite à décrocher son premier emploi de mannequin, ce qui l'a finalement amenée aux États-Unis. Michelle Taubert de People Magazine.
Elle est la première immigrante à devenir première dame depuis Louisa, qui était l'épouse de John Quincy Adams au 19e siècle.
Melania et Donald Trump, de 24 ans, son aîné, se sont rencontrés lors d'une fête et se sont mariés en 2005. Barron Trump est né l'année suivante, le plus jeune fils d'un président en exercice depuis John F. Kennedy Jr. en 1963. Le président Donald Trump.
C'est une mère incroyable, elle aime tellement son fils Barron.
Melania Trump, première dame des États-Unis.
Il aime son école et ses sports. C'est un grand athlète et je veux juste le garder loin des caméras, des projecteurs pour le moment.
Melania elle-même évite les regards du public, sauf pour des apparitions occasionnelles, au nom des causes pour lesquelles elle se bat. Sa campagne Be Best fait la promotion du bien-être de l'enfance. En juillet, elle a distribué des déjeuners dans un refuge pour mères célibataires. Be Best décourage également l'intimidation sur les réseaux sociaux.
La technologie actuelle fournit aux gens des boucliers numériques derrière lesquels ils peuvent se cacher et l'anonymat remplace souvent la compassion et la responsabilité, ce qui peut amener les enfants et les adultes à se sentir capables d'être gentils et parfois cruels.
Elle n'a pas évoqué publiquement les tweets de son époux qui souvent cible vertement des opposants après des commentaires sur la jeune militante écologiste Greta Thunberg. Le bureau de Melania Trump a déclaré ceci. Ce n'est un secret pour personne que le président et la première dame communiquent souvent différemment comme le font la plupart des couples mariés. Parfois, elle est elle-même prise pour cible. Le 4 juillet dernier, des vandales ont mis le feu à la statue érigée en son honneur dans sa Slovénie natale. Même si elle a passé les 4 dernières années loin des caméras, les experts affirment que Melania Trump s'exprimera davantage alors qu'elle tente de rester la première dame du pays pour encore 4 ans.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée, à l'écoute.